Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Des clés pour grandir cette semaine avec un nouveau numéro consacré aux jeux vidéo. Sophie Delambert, coach d'adolescents, jeunes adultes et de parents, je vous dis bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors, est-ce que vous-même, vous jouez à des jeux vidéo ou vous avez joué à des jeux vidéo avec, vos ados, Sophie Delambert?
Je ne m'attendais pas du tout à la question, mais la réponse est non.
Surprise, vous avez le sourire, donc ça vous fait sourire, c'est un bon début.
Non, je ne suis pas addict, en tout cas, je ne suis pas passionnée de jeux vidéo.
Vous parlez déjà d'addiction quand on parle de vidéo.
Alors oui, parce que très souvent c'est lié et la plupart des adultes ou en tout cas des parents qui viennent au cabinet sont des parents en fait qui me parlent déjà d'addiction par rapport aux enfants.
Donc on entend parents inquiets.
Alors des parents très inquiets et je les comprends parce que même si les jeux vidéo peuvent avoir de bons côtés, comme par exemple rassurer l'enfant ou le booster en termes de confiance en lui, c'est vrai qu'il
ça
peut y
limite.
Avoir, il peut y avoir des limites. Tout. Et moi, quand j'entends concrètement un parent qui me dit que son enfant ne participe plus au repas de famille, devient agressif et violent, hurle en pleine nuit parce qu'il est connecté et parce qu'il y a une panne Internet, je me dis qu'effectivement, il y a parfois des signes qui sont alarmants et ou en tout cas qui devraient dire aux parents qu'il est temps de consulter.
Et d'intervenir, oui. Alors pourquoi un tel engouement pour ces jeux vidéo?
Alors parce que c'est un moyen...
Faits, ils sont bien faits aussi. Hein.
Alors ils sont très bien faits et je vous expliquerai tout à l'heure si vous me le permettez comment ils sont faits et en quoi ils peuvent maintenir ce jeune complètement accro. Mais je commencerai par dire que c'est un moyen de quitter la société. Un moyen de quitter les problèmes et les contraintes de la société. Et on sait que l'adolescent est très sensible au plaisir immédiat. Et lorsqu'il a quelque chose, enfin un jeu qui va pouvoir le gratifier, il risque en tout cas de s'y plonger dedans et de s'y accrocher. Donc c'est un moyen de trouver un refuge, une zone de confort où il va se sentir bien. Mais c'est aussi un sentiment de réussir. Contrairement à sa vraie vie. Et c'est là où, finalement, il peut y avoir un danger, parce que les jeux en ligne ont des éléments qui sont addictogènes.
Alors, ça marche comment, ces jeux?
Alors, ça marche comment? Moi, je vais parler des jeux en réseau, parce que ce sont les jeux en réseau qui ont ces éléments addictogènes dont je vous parle. Ce sont des jeux, donc il faut savoir que ce sont des mondes virtuels un peu fantastiques où on va se connecter grâce à un code secret et surtout, on va créer un avatar. Un avatar, c'est un avatar qui va finalement devenir un soi parfait hein, ou un moi parfait, comme vous voulez, avec des tas de pouvoirs, de qualités. Et avec cet avatar, on va jouer simultanément avec des milliers d'autres joueurs dans le monde entier. D'où cette impression et cette fausse impression d'avoir des amis. Moi, ces jeunes que je reçois au cabinet, ce sont des jeunes qui me disent, mais enfin, vous me parlez, mais j'en ai des amis. J'en ai, je leur parle, je partage. Et oui, mais ce sont des amis qui restent virtuels et ce sont des amis avec lesquels on ne va pas se confronter avec les problèmes de la vie courante. Et ce côté virtuel, c'est un côté qui va les éloigner de leur vraie vie. Donc, pour bien comprendre pourquoi ça rend addict, c'est qu'avec ces milliers d'autres joueurs, pour affronter ces adversaires, on va créer des groupes qui s'appellent des guildes, c'est-à-dire ces espèces de petites armées qui vont combattre de façon à sauver le monde d'une menace que seuls peuvent éradiquer. Donc, ces jeux se passent en trois étapes. Il y a l'exploration, il y a le combat. Dans le combat, on affronte des monstres. Et à chaque fois qu'on bat des monstres, on gagne des points d'expérience, on passe des niveaux, ce qui va augmenter les capacités physiques et magiques de leur avatar et petit à petit, le jeune, en fait, va se sentir le roi du monde parce que en plus, ce jeu vidéo va lui laisser la chance de recommencer même s'il échoue. Donc, tout ça va booster sa confiance en lui, lui demander d'être actif, de prendre des décisions, d'être en alerte, d'être flexible, de résoudre des problèmes et finalement de se sentir tout puissant.
J'allais
fort.
Vous dire, il se sent tout puissant et très fort. Alors, quels sont justement les signes très précis pour les parents qui vous écoutent, qui pourraient vraiment alerter le parent que son enfant, adolescent ou jeune adulte, est devenu vraiment actif, mais addict à ces jeux vidéo?
Alors, on parle de 4 types d'usages de ces jeux vidéo. On parle des types occasionnels et réguliers, c'est-à-dire où en gros le plaisir va guider le jeu. L'enfant s'arrête quand c'est terminé, il est en capacité d'arrêter seul, et en tout cas ça reste finalement assez récréatif. Et puis on va parler de 2 autres usages qui là peuvent d'ores et déjà alerter l'attention des parents. C'est les usages abusifs et addictifs. Ici, ils ont en commun l'excès de consommation, où l'enfant va pouvoir passer plusieurs nuits et journées à vouloir terminer son jeu au détriment de ses repas, du sommeil, de la scolarité et surtout une incapacité à se contrôler. On va parler d'usage addictif lorsque il va y avoir un asservissement à ces jeux et que le jeu finalement est un moyen d'obtenir du plaisir et d'apaiser une angoisse profonde. Donc on n'est plus du tout là dans le désir de jouer, mais dans le besoin de jouer. Et dès que vous commencez à retirer ou empêcher le jeune de jouer, il va y avoir cette intolérance à la frustration qui va laisser place à une violence. Et cette violence va s'exprimer à travers des mots, parfois même à travers des gestes. J'ai un jeune qui m'expliquait qu'il avait frappé sa mère parce qu'elle avait coupé Internet, parce qu'elle ne supportait plus de l'entendre hurler en pleine nuit et d'être réveillée. Et là, on se rend compte à quel point le jeune est isolé, a tout délaissé et ne vit plus que pour ça. Et là,
donc,
la prise en charge est essentielle.
Il a quitté ce monde réel, il est dans un monde complètement virtuel où il devient le héros et tout puissant.
Oui, c'est ça. Et puis, le retour à la réalité est beaucoup trop compliqué
terrible,
pour lui.
Et oui.
Trop compliqué pour lui. Donc, c'est important, en fait, de reconnaître chez ces jeunes, finalement, un manque de confiance en eux et bien repérer, finalement, que tous les jeunes ne vont pas devenir complètement dépendants, en fait, ou complètement addicts, comme si on emprunte le mot anglais. Mais ce sont les jeunes qui, souvent, pendant l'enfance, n'ont pas réussi à développer chez eux une assise assez sécure. Et cette assise assez sécure va faire que quand ils vont se confronter aux problèmes de l'adolescence, des problèmes qui parfois sont un petit peu compliqués, l'échappatoire va être finalement une porte de sortie.
Alors vous qui recevez dans votre clientèle de nombreux jeunes, et en particulier sur ce que nous évoquons avec vous aujourd'hui autour de ces dépendances peut-être autour des jeux vidéo, c'est une population plus une clientèle de garçons. Vous l'expliquez comment? C'est ce que vous me disiez en préparant
cette
émission.
Alors
du jour.
Non. Pour reprendre un petit peu ce que moi j'en ai vu et lu surtout. Les statistiques montrent ou disent qu'il y a autant de garçons que de filles, avec une légère, un léger plus pour les garçons. En réalité, moi, ce que je vis dans le quotidien, c'est que je ne reçois que des garçons qui ont ce problème par rapport aux écrans. Et alors, je les reçois parce que les parents me les envoient. Et pas parce que c'est une demande de leur part. Et ça, c'est important de le souligner, parce que ça montre bien que le jeune n'a pas conscience, il n'y a pas eu cette prise de conscience qu'il a un problème de comportement lié aux écrans et qu'il est temps d'être pris en charge. Il vient parce qu'il est envoyé par ses parents et c'est à moi d'essayer de le faire changer. Mais la première étape, oui, c'est la prise de conscience, évidemment.
Un résultat positif au bout de combien de temps?
Alors ça va dépendre, je suis incapable de vous répondre.
Pour
ça
un
va
bon travail, il faut que ce jeune va... qui se consulte collabore dans ce travail.
Alors il ne peut collaborer que,
quand
si...
il sort de ce défi,
que s'il prend de conscience de son addiction. Après, moi, je suis pas, à partir du moment où il y a une pathologie, c'est-à-dire que c'est pas le cannabis qui fait le drogué ou l'alcoolisme qui fait l'alcoolique. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un problème qui est antérieur à ça et qui va faire que la personne va être dans l'excès. Et à partir du moment où c'est une pathologie, moi, j'oriente vers des gens qui sont compétents, en tout cas spécialistes de ça, et ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis coach, je travaille sur les dysfonctionnements de comportement, mais à partir du moment où ce ne sont pas des addictions.
Alors, en conclusion, Sophie de Lambert, pour quelques solutions et ce programme pour les parents. Alors,
j'ai envie de conclure
ces vidéos.
Excusez-moi. J'ai envie de conclure, Nathalie, en vous disant qu'à partir du moment où le parent se rend compte que les comportements de l'enfant empêchent une vie familiale normale, il est important d'agir et puis il est important de dire non, d'instaurer un non. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon discours, mais c'est quelque chose de fondamental. Un non donne de la valeur à un oui et surtout sécurise votre enfant et lui montre que vous faites attention à lui et que vous agissez pour son bien, même si lui va trouver que c'est quelque chose que vous faites contre lui, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque vous le sécurisez en le recadrant et en lui donnant des limites. Et la limite, c'est le préparer à une vie dans la société qu'il va devoir affronter plus tard.
Et ça fonctionne, ce travail de coach avec cette clientèle et en particulier ces ados qui consultent par rapport à cette problématique particulière d'une dépendance aux écrans? Les résultats sont-ils bons?
Alors, les résultats sont très bons.
Ah,
et
on reste sur du positif.
Ah, mais de toute façon, il faut rester positif et puis il n'y a rien de dramatique. Je pense que rien n'est irréversible et que l'on peut toujours trouver des solutions et il y en a. Et la société aujourd'hui est assez évoluée pour proposer des solutions qui fonctionnent et qui marchent.
Donc merci beaucoup, plein d'espérance. Et puis, parents qui écoutaient cette émission du jour, rappelez-vous que la recette miracle, très concrète, c'est de savoir redonner ce nom à ses enfants pour montrer que l'interdit aussi fait grandir. Hein, et on donne les clés pour grandir.
Absolument.
Merci Sophie de Lambert. À bientôt.
Merci Nathalie.